France Musique. France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
Aujourd'hui, votre exploration de la date du jour, le 3 octobre, nous emmène en Écosse.
Exactement. Nous partons aujourd'hui sur les terres de mes ancêtres, Gabriel, en ce 3 octobre, les Highlands, une terre humide et verte sous un ciel gris, dont le silence percé par le sifflement du vent semble être le même que le silence traumatisé qui suit les derniers éclats lointains d'une bataille de silhouettes millénaires couronnées par d'antiques joyaux. Il y a exactement 308 ans, le 3 octobre 1712, en Écosse, le duc de Montrose lance un mandat d'arrêt contre un personnage historique bien particulier, Robert MacGregor, plus connu sous le nom de Rob Roy MacGregor, Roy pour la couleur rouge de sa chevelure. L'Écosse du XVIIe siècle, le peuple gronde, l'Angleterre n'a pas de roi écossais à sa tête et les Écossais jacobites, à grand renfort de batailles et de soulèvements armés, montrent leur intention de mettre sur le trône de l'Angleterre l'Écossais James VII et ses descendants. Rob Roy, hors la loi écossais, devenu légende, participe à ces batailles et se fait un nom salué par sa bravoure. Et si l'histoire a fait de Rob Roy un héros, un Robin des Bois écossais comme on peut l'entendre quelquefois, la réalité fait beaucoup moins rêver. Rob Roy est plutôt un bandit, une brute, qui se fait sa fortune en extorquant de l'argent aux fermiers contre un peu de protection et en travaillant dans le bétail. Du bétail, il envole à son propre bienfaiteur, le duc de Montrose, qui demande alors son arrestation le 3 octobre 1712. Walter Scott écrit un Rob Roy en 1817, roman historique en faisant un anti-héros. Et qui le lit ?
Hector Berlioz.
Un Hector Berlioz adolescent, exactement, Gabriel, qui en fait une ouverture symphonique dont il n'est pas forcément très fier.
Une ouverture de Rob Roy, longue et diffuse, exécutée à Paris, fort mal reçue du public et que je brûlais le même jour en sortant du concert.
Bon, Berlioz brûle la partition, certes, mais il savait très bien qu'une copie avait été envoyée à l'Institut. Pas fou, Berlioz.
Bah alors, qu'est-ce qu'on y entend dans cette ouverture, Christophe ?
Eh bien, un instrument en particulier. Tendez l'oreille. Petite mélodie donnée au corps anglais. Rien d'extraordinaire pour l'auditeur lambda qui va pouvoir trouver ça juste joli. Sauf que Gabriel, nos éditeurs à France Musique...
J'ai eu peur là.
Oui, ne sont pas lambda. Le juste joli, ça ne suffit pas. Comment aller plus loin ? Eh bien, en feuilletant le grand traité d'instrumentation de Berlioz qu'il écrit dans les années 1840.
D'ailleurs, tous nos auditeurs le font chaque matin.
Ben, j'espère bien, c'est sur Internet. Il écrit une fiche par instrument de l'orchestre et il livre ainsi une sorte de code émotionnel et subjectif. On peut le lire comme vraiment un code. S'il emploie le corps anglais, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une voix mélancolique, rêveuse, assez noble, dont la sonorité a quelque chose d'effacé, de lointain. Quand il s'agit d'émouvoir en faisant renaître les images et les sentiments du passé, quand le compositeur veut faire vibrer la corde secrète des tendres souvenirs.
Et voilà, l'auditeur exigeant de France Musique entend maintenant un peu mieux cette ouverture Rob Roy de Berlioz. Il sait qu'il peut ressentir la nostalgie d'un lointain passé effacé grâce au corps anglais.
Christophe, est-ce que vous avez d'autres exemples ?
Oui, dans le traité. Oui, le basson, par exemple, si vous voulez nous lire ce que Berlioz en dit, Gabriel.
Bah justement, je le lisais ce matin. Sa sonorité n'est pas très forte et son timbre, absolument dépourvu d'éclat et de noblesse, a une propension au grotesque. Le caractère de leur note haute a quelque chose de pénible et de souffrant, je dirais même de misérable, qu'on peut placer dans un dessin d'accompagnement avec le plus surprenant effet.
Et voilà comment Berlioz utilise le basson. Écoutez sa parodie de Marche à l'échafaud. Le basson qui vient ricaner à la barbe du condamné. Par contre, attention, ça ne veut pas dire corps anglais égale nostalgie ou basson égale grotesque, etc. Ce traité d'instrumentation de Berlioz, c'est un guide émotionnel qui propose des clés aux compositeurs pour mieux guider les émotions des auditeurs au 19e siècle comme une sorte de code, pas secret du tout, Gabriel. Un orchestre n'est pas là pour raconter la pluie ou la tempête, mais par contre, il cherche à provoquer chez l'auditeur le sentiment qu'on a devant la pluie ou la tempête. Réécoutez la symphonie pastorale, la 6e de Beethoven. Mais avec cette idée-là, justement, en tête, l'orchestre est là pour suggérer au cerveau de l'auditeur ce qu'il peut ressentir, comme s'il était réellement face à la nature qui se déchaîne.
Quel investissement dans cette chronique, Christophe. On se serait vraiment senti sur une terre humide et verte sous un ciel gris, là, avec vos ancêtres.
Hein. C'est bien étaient... pour la météo dans ce moment.
Ils étaient tous là dans le studio, les ancêtres.
Hein. Avec leur kilt.
Merci beaucoup Christophe, on peut réécouter cette chronique évidemment sur notre site francemusique.fr. Vous restez évidemment une heure de plus avec nous ?
Toujours.
Très bien, merci.
À réécouter sur francemusique.fr.